Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de ce qu'on appelle la force tranquille féminine. On y va pour les détails.
Midi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Tana Benani, bonjour.
Bonjour Yasmine.
Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Je remercie la Tana.
Ça va, très bien. Merci de m'avoir accueillie.
C'est un plaisir de vous avoir. Alors, d'abord, out of the blue, honnêtement, votre prénom m'a vraiment attirée. C'est vrai que ce n'est pas notre thématique, mais Tana, ça veut dire quoi?
Alors, Tana, ça veut dire, c'est en arabe, c'est l'arabe pour gratitude, reconnaissance. Parfois, il est utilisé aussi pour louange. Voilà.
C'était la fille qui était attendue?
Oui, c'est un prénom qui retrace un petit peu l'histoire de ma naissance. Et puis, c'est un prénom qui m'a aussi guidée dans ma vie.
Ouais.
Parce que, on peut dire que très jeune, j'ai adopté la gratitude comme une valeur principale dans mon existence.
Avant que ce soit la mode?
Avant que ce soit la mode, je ne savais pas que c'était une mode.
Aujourd'hui, la gratitude, célébrer la gratitude, enfin toutes ces choses qui font partie de ce mouvement de développement personnel, etc., de reconnexion avec le monde, c'est un peu à la mode. Mais bon, ça c'est une parenthèse. Alors, Tana Benani, justement, vous avez touché à beaucoup de choses. Vous avez eu une belle réalisation de carrière. Vous avez décroché l'une des plus grandes et plus prestigieuses bourses au monde, la Fulbright. Vous avez fait vos études dans une très grande université américaine. Vous avez travaillé dans des organismes publics. Vous êtes lancé vous-même dans l'entrepreneuriat. Vous êtes, ce qu'on peut dire, une femme professionnellement accomplie. Est-ce que vous aviez un plan d'attaque?
C'est vrai que quand je regarde mon parcours, il est atypique. Et on peut penser que j'ai basculé d'un secteur à l'autre d'une façon aléatoire. Mais je crois à une chose qui est l'abondance. Et je laisse mon esprit faire confiance à cette abondance et m'emmener d'une étape à l'autre avec confiance et une croyance forte que c'est exactement la prochaine étape pour moi. Si je peux expliquer ça, alors j'ai commencé ma carrière dans la finance, parce que j'ai toujours rêvé de faire de la finance. C'était mon rêve de la petite fille. Et puis, une fois dedans, j'ai réalisé que c'était un environnement qui ne me convenait pas. Et donc, alors, pour la petite histoire, l'histoire personnelle, quand je suis partie, j'étais enceinte de 8 mois. Et donc, vous imaginez qu'à 8 mois, c'est très difficile de postuler pour un job et d'espérer de commencer dans les mois qui viennent. Eh bien, l'opportunité qui s'était présentée, c'était un poste à l'ambassade des États-Unis. Et je peux vous dire que j'ai vite compris que c'était bien pour moi, cet environnement, à l'interview, parce que la personne qui m'a passé l'interview, c'était une conseillère commerciale, et elle n'a pas posé la question, malgré le fait que j'étais là avec mon ventre de 8 mois. Et donc, j'ai vite senti qu'il y avait l'égalité des chances dans cet environnement. Et donc, j'ai rejoint cette organisation. Donc, j'y ai passé à peu près 15 ans. Et puis, il n'y avait plus d'évolution possible pour moi. J'ai retrouvé le secteur privé. Il y a eu une opportunité au secteur privé dans les énergies renouvelables. Donc, moi, je suis une forte militante pour le développement durable. Et donc, l'énergie renouvelable était une suite tout à fait logique pour moi.
Absolument.
Voilà.
On va décortiquer certains moments importants, notamment démarrer un nouveau job avec une grossesse qui s'achève et un accouchement qui s'annonce.
Oui.
Comment on fait ? Comment la femme que vous étiez a fait ça ?
Alors, j'ai eu la chance que j'ai été acceptée dans ce nouveau poste avant mon accouchement. Et puis, on m'a informé qu'il y avait un processus de validation, un due deal sur la personne. C'est un process de sécurité, parce que je rentrais dans le corps diplomatique, qui prenait 3 mois. Donc c'était un peu parfait.
C'était
pour
l'idéal.
Moi, ça m'a permis de vivre mon congé de maternité 4 mois dans à l'aise sans se soucier vraiment de ce début. Mais bon.
Alors, il y a un autre point qui m'interpelle, c'est que vous avez dit, moi j'ai commencé dans la finance, c'était mon rêve de petite fille, et puis arrivée dans ce secteur-là, j'ai vite compris que ça ne me convenait pas. Vous savez, Nana, vous n'êtes pas la seule à me dire ça. Beaucoup de femmes d'aujourd'hui que je reçois, beaucoup de femmes ont commencé dans la finance, avant de se dire, après peut-être quelques années, vous avez été assez rapide, au bout d'un an et demi plus ou moins, vous avez compris que ce n'était pas votre truc, se sont dit, stop, on arrête, on passe à autre chose. Et elles ont fait à ce moment-là des reconversions de carrière. Pourquoi la finance attire tellement et ensuite repousse tellement ?
Alors, je pense que elle attire tellement parce que elle est assimilée ou elle est le fruit de notre imagination.
C'est-à-dire,
elle n'est pas bien recherchée. C'est-à-dire que l'image qu'on se fait, en tout cas pour moi, étant petite fille, l'image que je me suis faite de la finance, c'était à travers la fiction. C'était à
Absolument.
Travers les séries, les films. Ah. Donc, c'est un milieu qui est prestigieux, où il y a beaucoup d'accomplissement, de prise de décision, de négociation. Et c'est des choses qui viennent naturellement, je pense, aux femmes. Après, quand on rentre sur le terrain, on se rend compte que la réalité elle est toute autre chose. Ça reste un environnement qui est très exigeant, qui est fortement masculinisé et qui ne fait pas de place à l'équilibre entre la vie professionnelle et personnelle.
C'est important pour vous.
Oui, c'était très important. C'était très important. Moi personnellement, la vie personnelle, la maternité, c'est des choses que j'ai toujours placées en priorité dans ma vie. Mm. Et donc, je n'étais pas prête
à
laisser tomber.
À quel degré on peut mettre ça en priorité ? Je m'explique, de femme à femme. C'est-à-dire, oui, c'est très important pour nous, bien sûr, de prendre soin de nos enfants, de notre foyer, pour celles qui ont des enfants, des foyers, etc., un foyer, etc. Jusqu'à quel degré c'est notre priorité ? Je m'explique, dans un contexte arabe, marocain, si un conjoint dit à sa femme « tu arrêtes de travailler », moi, je ne veux plus de ce rythme-là. Ou là, par exemple, si lui a une opportunité professionnelle ailleurs et qu'elle, en construisant sa carrière, est obligée de l'arrêter, est-ce qu'on est prête aujourd'hui, nous les femmes, d'aujourd'hui à abandonner notre carrière, même lorsque notre foyer, nos enfants sont importants pour nous ?
Alors, c'est une question qui reste personnelle. C'est-à-dire, le choix peut différer d'une femme à l'autre. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ça reste... je vais reprendre une citation de Michelle Obama qui a dit « La femme peut tout avoir ». Du moment qu'elle accepte de ne pas tout avoir en même temps.
Oui.
Et donc, ça, c'était ma devise. Je connaissais pas, il n'y avait pas la citation d'Obama à l'époque. Et donc, à côté de ça, j'ai accepté aussi de me débarrasser du regard de l'autre. Ça veut dire que souvent, la femme se retrouve à faire des choix qui ne leur conviennent pas parce que elles estiment que, ayant fait des études, ayant été pour s'affirmer, il faut absolument qu'elles tiennent à des choses qui ne leur conviennent pas. Parce que les autres la regardent les gens, son, ses collègues, ses amis, la juge, sa famille et tout le reste. Et du moment qu'on décide de se débarrasser de ce regard de l'autre, c'est un poids qui est éliminé et on peut faire des choix mieux réfléchis et qui nous conviennent mieux. Je vais vous raconter une histoire d'une dame que j'ai rencontrée dans ma carrière. Elle était consule générale des États-Unis au Maroc à 50 ans. C'est une femme qui a commencé sa carrière 5 ans avant. Pourquoi ? Parce qu'elle était mariée, son époux était dans la marine nationale américaine et donc il était souvent appelé à se déplacer, il était diplomate. Et donc elle l'a accompagné toute sa vie. Et quand son conjoint a pris sa retraite anticipée, donc elle lui a dit « maintenant, c'est à moi ». Et donc, c'est à toi de me suivre. Et c'est là où elle a commencé sa vie.
Sa carrière professionnelle, oui.
Exactement.
Alors, ce que vous dites, la femme peut tout avoir, mais elle doit accepter de ne pas tout avoir en même temps. Ça me rappelle aussi cette analogie de l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Ça ne veut pas dire que c'est tous les jours l'équilibre. C'est aussi, eh bien, il y a des jours où on accepte que ce soit déséquilibré, une sphère de la vie par rapport à l'autre, soit la vie privée, soit la vie professionnelle. Et un autre jour, eh bien, c'est une autre sphère qui prend le dessus sur l'autre. Et c'est ça, en fait, l'équilibre. Ce n'est pas dans la journée, eh bien, j'arrive à tout faire.
Absolument, absolument. Le rythme des semaines ne se ressemble pas.
Voilà.
Et ce qui est important, c'est aussi son entourage. L'entourage va faire la différence. Va faire la différence par rapport à si on est soutenu ou pas. Donc il y a des jours où justement il y a tout qui se bouscule et on ne sait pas si cette journée va se terminer et on ne sait pas si on va s'en sortir. Et c'est là où c'est important d'avoir un partenaire, une famille qui comprend, qui est bien informée, qui nous dit c'est pas grave, demain sera meilleur. Et puis je ramènerai aussi encore cette idée de l'abondance, croire à l'abondance, croire que tout va s'arranger, que le meilleur reste à venir. C'est quelque chose qui aide dans ce chaos, qui aide à le voir organisé, malgré le fait que rien ne semble être à la bonne place, et pouvoir avancer jusqu'à ce que les choses se rétablissent. Donc c'est un jour à la fois, une semaine à la fois, et ne pas essayer de tout le temps se projeter et se résumer à cette instabilité ou à cette irrégularité, je dirais.
Alors, vous avez également intégré le Conseil économique, social et environnemental. Alors aujourd'hui, vous êtes dans la tech.
Oui.
Et oui.
je suis dans la tech au service de l'impact social.
Alors, expliquez-nous, qu'est-ce que c'est exactement et comment vous avez, est-ce qu'il y a un lien dans tout ça, en fait, dans tout ce parcours avec ce que vous faites aujourd'hui?
Ok.
Ou pas forcément, ou c'est pas nécessaire, en fait, d'avoir un lien?
Non, je pense que c'est nécessaire d'avoir un lien. Voilà, le lien, c'est le fil conducteur qui nous aide à rester fidèle à soi-même, à rester engagé et à savoir que on a donné un sens à sa vie, même si c'est dans des rôles et des fonctions qui sont complètement différentes.
Donc alors, voilà, le fil conducteur, c'est le rôle qu'on a donné à sa vie.
Exactement.
C'est pas les postes qu'on a occupés.
Non.
C'est
non,
au-delà de que ce qu'on fait.
Voilà, c'est ce qui nous anime,
oui.
Qui nous fait, nous sort du lit tous les jours et on se dit j'existe pour ça. C'est pas je travaille pour ça, mais j'existe pour ça.
Vous existez pour quoi, justement, Tana?
Alors, je pense que j'existe pour réduire les inégalités et les disparités dans ma société, dans mon entourage et pourquoi pas dans le monde.
Alors, vous avez pris conscience de votre rôle à quel moment de votre parcours de vie?
Alors, je pense que ça s'est fait quand, au niveau de ma, de mon rôle de directrice des relations institutionnelles dans une entreprise, dans l'entreprise des énergies renouvelables, j'avais un rôle de faire le lien entre l'entreprise et son environnement institutionnel, notamment les gouvernements, les ONG, tout ça, et j'avais aussi la fonction du RSE. Et donc c'était une entreprise qui avait pour ambition de développer des centrales hydroélectriques au Maroc et à l'international, notamment en Afrique. Et puis à un moment, en faisant mes recherches et mes lectures sur les impacts environnementaux et sociaux de ces projets, je me suis rendu compte que les femmes étaient négativement impactées par ces projets, généralement. Parce que c'est des projets qui nécessitent de mobiliser du foncier, généralement dans des zones enclavées. Et c'est des zones qui sont à côté de l'eau, donc c'est des zones qui sont déjà habitées par des populations qui vivent, qui dépendent de cette ressource et de cet emplacement pour continuer à vivre. Et l'expropriation de ces terrains, de ces fonciers, faisait que c'est les hommes qui sont dédommagés, qui sont compensés pour ce foncier, et les femmes se retrouvent sans ressources, sans maison, sans abri, sans activité.
Et pour quelles raisons?
Parce que dans le système de la compensation, on ne s'assure pas qu'il y a une équité dans la distribution de la compensation. On donne la compensation au chef de ménage, qui est l'homme. Voilà. Donc, il y avait une injustice, là. Et là, j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup d'autres inégalités subies par les
femmes.
Les femmes, les populations qui vivent dans des milieux désavantagés, les jeunes, et ça m'a conduit vers. Je me suis vraiment focalisée sur ce point-là. D'ailleurs, dans mon expérience au sein du conseil, je suis passée de ce rôle de chargée de partenariat à experte. Donc, j'ai fait aussi de l'expertise dans les commissions. J'ai travaillé sur un rapport sur la transition énergétique, mais aussi sur un rapport sur l'économie informelle. Et là, c'est vraiment l'endroit où j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup d'injustices sociales qui sont subies par les travailleurs informels, de l'injustice fiscale aussi entre le salarié qui paye ses impôts et les entreprises qui font de l'évasion fiscale. Donc il y avait à plusieurs niveaux, il y avait cette injustice et je me suis dit, même si je ne suis qu'une citoyenne, même si je suis qu'un individu, il doit y avoir un moyen pour contribuer à réduire cette inégalité. Mmh. Et donc, aujourd'hui, à Duartec, donc, comme j'ai dit, Duartec, c'est la technologie, le digital, au service de l'impact social. Et ce qui m'a attirée, c'est que donc j'ai commencé à suivre un peu l'activité de Duartec avant de la rejoindre. Et il y avait une promotion d'un programme d'accompagnement de femmes entrepreneurs dans les villes de Taroudant, Essaouira et Chefchaouen. Alors quand j'ai vu le choix de ces villes, j'ai vite compris qu'on était dans la remédiation à l'inéquité territoriale, parce que j'ai compris qu'il n'y avait rien pour accompagner les jeunes femmes dans ces localités-là. Et donc, c'est un peu aussi, aujourd'hui notre mission aussi, donc l'accès à l'opportunité économique pour les jeunes dans des territoires défavorisés.
Alors, vous faites aujourd'hui beaucoup de social, en quelque sorte. Pourtant, vous avez fait des études de finance. Pourtant, vous avez décroché une Fulbright. Vous avez été dans une prestigieuse université. Est-ce que c'était du temps perdu?
Non, pas du tout. Non, parce que tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a appris, c'est des compétences qui reviennent à un moment et qui nous permettent d'accéder à des réseaux différents, de savoir promouvoir notre mission auprès de ces réseaux qui sont différents mais qui sont aussi sensibles à notre cause, de savoir négocier, de savoir vendre notre valeur, notre solution. Non, je n'ai jamais perçu cet apprentissage ou cet acquis comme quelque chose de perdu ou de perte de temps.
Alors justement, est-ce que aujourd'hui, avec du recul, vous êtes la femme que vous avez toujours voulu être?
Oui, je le pense. Oui, je suis la femme que... Est-ce que je savais qui je voulais être oui. au départ? Ah. Je dirais que non.
Oui.
Mais j'avais toujours cette fibre militante à l'intérieur de moi. Les gens qui me connaissent aujourd'hui diront que à mon jeune âge j'étais plutôt discrète et je contestais pas beaucoup, j'étais plutôt très accommodante, j'évitais le conflit et tout ça, mais je pense que j'étais dans une phase d'observation. J'étais silencieuse, mais j'observais ce qui se passait en moi tous ces ingrédients. Ils ont pris forme à un moment et ça a donné ce que ça a donné pour la suite.
En fait, quand on vous écoute parler, moi, ce que je ressens, c'est la force tranquille.
Merci. Merci d'avoir mis un nom dessus. C'est probablement ça. Oui, je suis d'accord. Même si aujourd'hui je suis plus une force tranquille, ça veut dire que je conteste plus, je suis plus ouverte sur les choses qui me dérangent et aussi sur les inégalités que je peux observer au quotidien.
Alors justement cette ferveur professionnelle, quand vous rentrez à la maison, est-ce que vous l'éteignez? Est-ce que pour réussir aussi sa vie privée, il faut savoir ne pas être cette femme de l'extérieur à la maison?
Non, je sens pas le besoin de l'éteindre parce que j'ai peut-être la chance d'avoir un conjoint qui me soutient dans cette ferveur et qui est aussi curieux que moi pour savoir comment se passent les choses, comment on peut les changer. Et donc, il y a un échange qui se passe même à la maison sur notre quotidien, sur ce qu'on a rencontré, ce à quoi on a été témoin. Et donc, je ne sens pas ce besoin, alhamdoulilah, je pense que c'est une chance, de faire taire cette ferveur et de faire un mur entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Mais c'est vrai que je pense que je maintiens un certain équilibre pour pouvoir donner à l'espace personnel toutes les chances qu'il mérite.
Eh bien, Tana Benani, merci infiniment d'avoir été ma femme d'aujourd'hui.
Merci beaucoup, Yasmine.
En 360.
Merci beaucoup, Yasmine, et bon courage pour le reste.
Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver, surtout de retrouver mes femmes marocaines battantes, extraordinaires, du lundi au vendredi. Et bien sûr, chaque épisode est toujours en avant-première, à la demande, à n'importe quel moment, sur Média Podcast. Très, très bonne suite des programmes à toutes et à tous.